Les défis donc scientifiques, les défis de savoir en quelque sorte que j'ai déjà cités, donc je ne vais pas y revenir, les grands enjeux donc sur les exoplanètes, la cosmologie et tout ce que je n'ai pas cité. Je vais quand même citer au passage quand même les relations Soleil-Terre, donc tout le travail que nous faisons à l'Observatoire de Paris pour comprendre mieux et pour pouvoir prédire l'activité magnétique du Soleil qui a une grande influence sur la Terre. Donc ça aussi, c'est un des domaines où on est très en pointe à l'Observatoire de Paris, où on souhaite poursuivre ses recherches. Donc il y a toute une série de défis de savoir. Voilà. Mais alors, à côté de ça, et c'est peut-être là-dessus que je vais insister, il y a ce que je pourrais appeler des défis d'organisation. L'Observatoire de Paris est une institution très ancienne. C'est une chose que j'aurais dû vous dire au début, mais je le dis maintenant. Donc l'Observatoire de Paris a été fondé en 1667, sous le règne de Louis XIV. On fête cette année d'ailleurs les 350 ans de l'Observatoire de Paris. Et l'Observatoire de Paris a traversé tous ces siècles à chaque moment en s'adaptant évidemment à son contexte. Et aujourd'hui, le contexte de la recherche scientifique, là au XXIe siècle, il n'est absolument pas le même que celui qui prévalait au XVIIe siècle. Et donc le défi pour l'Observatoire de Paris, c'est de s'adapter au fur et à mesure à tout ce contexte. Aujourd'hui, donc, le contexte de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un élément extrêmement important sur lequel je voudrais insister, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, les institutions de recherche et d'enseignement supérieur, notamment les universités, se regroupent entre elles pour construire des ensembles plus gros, donc de nouvelles universités, en quelque sorte, d'une taille plus importante que celle qu'on connaît aujourd'hui, pour pouvoir mieux se comparer avec les grandes universités qui existent de par le monde, notamment dans le domaine.
Sciences et lettres.
Alors, là, pour nous, c'est l'Université Paris Sciences et Lettres, dont l'Observatoire est membre. Et donc, nous sommes au sein de cette université, en partenariat avec d'autres établissements, peut-être encore plus prestigieux que l'Observatoire de Paris, comme l'École normale supérieure, l'ESPCI, l'École de physique et chimie industrielle de la ville de Paris, l'école supérieure de chimie de Paris, Chimie Paris Tech, l'université Paris Dauphine, l'école des mines, l'école pratique des hautes études, le PHE, l'institut Curie, l'école des chartes. Voilà. Donc tout ça, ce sont des établissements extrêmement prestigieux qui se sont tous regroupés au sein de cette grande université Paris Sciences et Lettres. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'objectif, c'est de créer une nouvelle université, beaucoup plus visible sur le plan international, et qui serait comparable aux grandes universités, par exemple sur le modèle anglo-saxon. Je citais Harvard tout à l'heure. Eh bien, on a l'ambition que PSL, dans quelques années, ressemble à Harvard, et qu'au sein de PSL, l'Observatoire de Paris, qui sera l'institution dédiée à l'astrophysique au sein de PSL, ressemble encore plus au fameux Center for Astrophysics dont je parlais tout à l'heure. C'est un petit peu ça l'idée. Et ça, c'est un grand défi d'organisation que nous devons relever parce que ça suppose une modification importante du mode de fonctionnement de l'Observatoire et de tous ces autres établissements. Et c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux et extrêmement séduisant que nous avons devant nous. Donc voilà, ça répond un petit peu à cette question, même si on y avait répondu tout à l'heure.
Parfait. Alors, les associations de partage de savoirs scientifiques sont-elles pour vous une nécessité au sein de la société? Pourquoi?
Alors, moi je pense qu'effectivement, ces associations, dont la vôtre, hein, jouent un rôle absolument essentiel dans la société. Alors, il faut savoir que dans la plupart, enfin, pratiquement tous les établissements de recherche et d'enseignement supérieur, il y a aussi, en filigrane, une mission de diffusion de la culture scientifique et technique. Pour l'Observatoire de Paris, c'est même clairement indiqué dans le décret qui fonde l'Observatoire de Paris, ce décret qui lui donne trois missions essentielles: la recherche, l'enseignement et la diffusion de la culture scientifique et technique. Donc c'est dans notre mission. Et quand on dit diffusion de la culture scientifique et technique, c'est diffusion vers toutes sortes de publics. Et vous comprenez bien que nous, avec nos 600 personnels, on n'est pas capable de toucher l'ensemble du public, tous les Français, le monde entier. On ne peut pas le faire sans avoir la possibilité de s'appuyer sur des relais. Et je pense que ces associations, comme la vôtre, constituent justement ce relais dont les institutions qui font de la recherche et de l'enseignement de manière professionnelle ont besoin pour toucher le public. Donc on peut penser de manière assez spécifique pour l'astronomie aux astronomes amateurs, aux associations d'astronomes amateurs qui jouent un rôle considérable dans cette diffusion de la culture scientifique et technique et avec lesquelles on est en contact permanent, enfin avec certaines en tout cas. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important que nous devons cultiver, développer mieux dans l'avenir.
Alors, pour finir, que conseillez-vous aux jeunes générations intéressées par les sciences liées au spatial et à l'astronomie, l'astrophysique d'aujourd'hui ?
Alors, oui, ça c'est une question très intéressante, puisque c'est une question que j'aurais pu poser moi aussi il y a bien longtemps. Ce que j'ai envie de dire d'abord à tous ceux qui sont jeunes aujourd'hui et qui sont intéressés par les sciences, toutes sortes de sciences d'ailleurs, mais surtout celles reliées à l'astronomie, astrophysique et au spatial, première chose que je dois leur dire, c'est que ces métiers de la recherche sont absolument extraordinaires. C'est quelque chose de très attractif, très séduisant, et vraiment quand on fait sa carrière dans la recherche, je crois qu'on se réalise pleinement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ceux d'entre eux qui ont ce goût pour la science, ce goût pour la recherche, il faut à tout prix le garder. Il faut faire en sorte que cette flamme reste bien vivante en eux. Alors ça, ce que je dis est vrai pour toutes les sciences, mais évidemment encore plus pour l'astronomie et l'astrophysique qui... Alors, si vous voulez, l'astronomie et l'astrophysique, non seulement c'est de la recherche de pointe, c'est-à-dire que quand on fait de l'astronomie et de l'astrophysique, on est vraiment à la pointe du savoir de toute l'humanité, mais en plus on s'intéresse à des questions, comme on l'a vu tout à l'heure, qui ont une portée quasiment philosophique. Donc ce n'est pas juste la science pour la science, mais carrément c'est quelque chose qui a un rapport avec l'origine de l'homme, avec le fait que l'homme est seul ou pas dans l'univers, donc c'est quelque chose qui touche tout un chacun sur le plan philosophique. Donc c'est quelque chose de très important.
Et je vais rajouter, en fait, comme vous l'avez précisé, comme vous êtes à la pointe des sciences, de l'astrophysique, de cette discipline scientifique, vous êtes au carrefour de différentes disciplines scientifiques, voilà. Notamment dans le cadre de la biologie, l'exobiologie, absolument. La vie et toutes ces...
Donc ça, c'est un élément très important pour l'astronomie astrophysique. C'est aussi une discipline qui est justement très pluridisciplinaire. Donc on a besoin, effectivement, pour faire de l'astronomie, on a besoin d'avoir des connaissances et de faire de la recherche en mathématiques, déjà. Voilà. On fait de la recherche en mathématiques, on ne considère pas que les mathématiques c'est terminé, on sait tout. On continue à faire de la recherche en mathématiques à l'Observatoire de Paris. Évidemment, on fait de la physique, on fait aussi de la chimie, et comme vous le dites, on fait aussi de l'exobiologie. Donc maintenant, on travaille de main dans la main avec des biologistes, et on va plus loin que ça. Dans le cadre de PSL, nous avons développé un programme qui s'appelle OCAV, ça veut dire « Origine et conditions d'apparition de la vie ». Dans lequel des équipes de plusieurs de ces établissements que j'ai cités tout à l'heure se réunissent. Nous avons donc d'une part les astronomes qui recherchent dans l'univers les sites où la vie peut se développer. Donc ça peut être dans le système solaire ou sur des exoplanètes. Nous avons les biologistes qui se posent la question de l'apparition de la vie sur Terre et ailleurs et de l'évolution ensuite de cette vie. Essayer de comprendre comment ça s'est passé sur Terre pour essayer de voir comment, éventuellement, ça a pu se passer ailleurs. Donc ça, c'est un travail de biologiste. Et nous avons une troisième catégorie de chercheurs qui travaillent dans ce programme. Donc ce sont des gens qui travaillent en sciences humaines et sociales et qui se posent la question de la définition de la vie. Et qui se demandent, mais ça veut dire quoi, être vivant ? Et surtout, ils se demandent, mais comment cette notion de vivant a évolué dans l'histoire ? Que ce qu'aujourd'hui nous considérons comme vivant, peut-être qu'il y a 4 ou 5 siècles, ce n'était pas considéré comme vivant. Donc c'est disons une étude historique extrêmement importante pour mieux cerner ce que nous entendons par vivant. Donc voilà, donc tout ça, c'est très pluridisciplinaire. Et l'astrophysique se retrouve à ce carrefour, comme vous l'avez bien dit. Donc je crois que c'est très attractif pour quelqu'un qui s'intéresse à la recherche. Moi, j'ai envie de dire à ces jeunes générations, ben, écoutez, c'est formidable que vous vous intéressiez à ça. Essayez de le cultiver en vous. Essayez de le garder vivant, comme je le dis tout à l'heure. Gardez cet intérêt. Et puis la dernière chose qu'il faut leur dire, c'est que évidemment, c'est une excellente chose de se destiner à une carrière ensuite scientifique. Bon, mais évidemment, c'est difficile. Et donc le mot-clé qu'il faut garder à l'esprit tout le temps, c'est le travail. Hein. Si quelqu'un veut devenir chercheur, eh bien, il faut savoir qu'il devra travailler sans arrêt, quoi, pratiquement. Depuis ses années d'études jusqu'à la fin de sa vie, de travailler. Bon, bien sûr, on prend un peu de repos et on a quelques distractions, mais je pense que pour un chercheur en astrophysique, et dans n'importe quelle discipline d'ailleurs, le travail, c'est l'élément essentiel de la vie.
Très bien, merci.
Je vous en prie.